Alors, nous allons poursuivre avec notre étude. Nous allons poursuivre avec notre étude sur l'épître, la première épître de Paul aux Corinthiens. Nous sommes rendus au chapitre 2. Et je rappelle qu'en terminant le chapitre 1er, justement, dans les 18 et 25e versets du chapitre 1er, Paul donc mettait l'importance et montrait l'importance de la grâce de Dieu versus l'accent mis par les Corinthiens, eux, sur l'intellectualisme. Hein, c'était l'opposition qui se faisait à ce moment-là. Donc, la grâce de Dieu versus l'intellectualisme des Corinthiens ou des gens qui étaient à Corinthe, tout ce qui mettait l'accent sur la connaissance, sur la performance humaine. Et donc, c'est là-dessus qu'on s'est arrêté. Et tout en admettant que la connaissance et la sagesse sont des dons de Dieu, donc au chapitre 2, nous allons voir que Paul va mettre l'accent sur la révélation versus tout ce qui est découverte humaine. L'écart entre ce que Dieu peut révéler qu'on ne peut pas connaître par la découverte humaine, entre ce qui vient de la sagesse de Dieu qu'on ne peut pas obtenir, peu importe avec les méthodes humaines, la logique et toute intelligence humaine. Nous allons donc commencer le chapitre 2 ce soir et je vais y aller avec les blocs de versets, les deux premiers versets. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Paul dit, moi si je suis venu chez vous les Corinthiens, c'est pour vous annoncer le témoignage de Dieu. C'est le message le plus important que le monde doit connaître. Et le témoignage de Dieu, c'est que Dieu était capable de juger l'humanité, était capable de condamner l'humanité parce que l'humanité était déchue, l'humanité avait péché contre lui, mais il a usé de sa grâce pour venir nous racheter de nos vaines manières de vivre. Voici le témoignage de Dieu. Il pouvait dire, j'ai mis tout devant vous, vous avez commis une faute, vous avez péché, et c'est fini donc pour vous. Mais il a usé de grâce et il a fait donc ce plan de rédemption, le plan pour racheter l'humanité en sacrifiant son Fils unique. Voici le message qu'il est venu annoncer. Le témoignage de Dieu, c'est celui-là, rien d'autre. Et c'est le message le plus important. Il dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mon message, c'était rien que celui-là. Annoncer Jésus-Christ et l'œuvre qu'il a accomplie. Annoncer Jésus-Christ et l'œuvre qu'il a accomplie en étant crucifié. Je lisais dans le commentaire, je crois que c'est ici, Jésus-Christ, on peut continuer à le présenter comme étant crucifié. Non pas qu'il est encore sur la croix, mais il a été crucifié parce qu'en étant crucifié, ça lui a laissé des marques. Et quand il est monté au ciel, il avait encore ses marques. Et quand il reviendra, il aura encore ses marques. Parce que ce sont des marques qui lui donnent toute sa gloire. C'est la preuve de tout le travail qu'il a fait, etc. C'est les marques de sa gloire. C'est comme des galons. Ce sont ces galons à lui, là, sur le côté, etc. Jésus-Christ crucifié, voilà donc. Il est venu, Paul, pour annoncer ce message, et il dit, moi je n'avais pas besoin d'être éloquent. Le message est simple, mais il est puissant. Le message est simple, mais il est vrai. Le message est simple, et c'est le seul message que n'importe qui peut annoncer. Christ est mort pour vous racheter de vos vaines manières de vivre. Tu n'as pas besoin de sagesse, tu n'as pas besoin d'avoir fait la théologie pour annoncer ça. Et lui, il est venu dans toute sa simplicité pour annoncer ce message. Et c'est le seul message que le monde encore aujourd'hui a besoin d'entendre. Pourtant, Paul, il dit, je suis venu en toute simplicité, je n'ai pas eu besoin d'autre chose. Je suis venu simplement. Pourtant, c'est un homme érudit. On le sait, Paul, c'est quelqu'un qui a aux études, au pied de Gamaliel, c'est un homme érudit, bien instruit. Mais il se présente dans sa faiblesse. Il se présente dans sa faiblesse, justement, et il le précise plus tard, quand nous étudions la deuxième épître de Corinthiens, au chapitre 10, où il ne veut pas donc montrer qu'il est érudit. Il vient dans sa simplicité. Et on va voir que plus tard, on l'accuse de ça. Parce qu'ils veulent toujours le comparer à l'éloquence des autres. Apollos, quand il parlait, les gens, les foules, ça drainait les foules. Et on voulait le comparer. Paul n'était peut-être pas aussi éloquent qu'Apollos. Mais Paul avait un message important et puissant à donner. C'est le message qui est puissant lui-même, ce n'est pas le canal par lequel le message passe qui importe, c'est le message qu'il livre qui est important. Donc il s'est présenté dans sa faiblesse, son seul but était d'annoncer le Christ crucifié. Donc voilà ce qu'il nous dit dans les deux premiers versets. Et nous aussi, ce que je voulais dire, c'est que si nous voulons annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, nous n'avons qu'à être un simple canal, mettre juste l'Évangile en avant, pas sa personne, pas ses connaissances. Cette fois-ci, il ne parle même pas que je suis l'apôtre. Non, il dit, je suis venu simplement annoncer un simple message, mais un message puissant. Donc, le seul moyen de toucher les cœurs, encore aujourd'hui, le seul moyen de toucher les cœurs, le seul moyen pour transformer des vies, c'est en annonçant le message de Christ crucifié. Amen. Oubliez tout ce qui est les méthodes modernes, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de méthodes, hein. Tellement de méthodes pour évangéliser, tellement de méthodes pour prêcher. On va même prendre des cours à gauche, à droite, parce que, oui, c'est bon de structurer ces messages, mais on veut beaucoup de méthodes, beaucoup plus de méthodes, si bien que le message risque d'être dilué à travers tout ça. L'accent est mis sur les méthodes, etc. C'est même dans nos cultes, la musique, ça prend beaucoup de place, beaucoup d'importance au détriment du message. C'est les méthodes pour attirer. La seule façon, Jésus-Christ, en m'élevant, j'attire. Si nous l'élevons, alléluia, c'est lui qui va attirer. Mais nous voulons attirer, nous. Nous voulons attirer dans l'église les gens. Mais non, faites ça. Regarde l'autre église. Depuis qu'ils ont fait ça, la salle est pleine. Oui. Mais la salle est pleine. Est-ce que les gens, quand ils sont pleins, ils viennent pour la musique ou ils viennent pour être transformés? S'ils ne sont pas transformés, ben écoute, la salle est pleine pour rien. C'est une salle qui est pleine et dont peut-être la moitié ira, je ne sais pas, en enfer, je ne sais pas. Donc, nous devons tirer des leçons ici. Paul dit, j'ai un message important à donner. Les gens ont beau me critiquer, disant que je ne suis pas éloquent, je ne suis pas aussi éloquent qu'eux, mais moi j'annonce simplement le message de Christ crucifié. Amen. Alléluia. Versets 3 à 5. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un... Et d'ailleurs, il l'annonce. J'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Bien dit, très bien dit. Il avoue qu'il est venu dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Il ne se cache pas, il dit, c'est vrai, c'est le Paul, le grand Paul que Jésus a rencontré sur la route, etc., qu'il a choisi comme son apôtre, mais je suis venu dans un état de faiblesse. Même quelqu'un qui est appelé par Dieu peut avoir des moments de faiblesse. Et lui, il avait des moments de faiblesse, justement, par rapport à ce qu'il avait vécu avant. On dit qu'à Philippe, il revenait de Philippe, la ville de Philippe, il avait été battu. Acte 16, on va lire rapidement. Acte 16, je veux dire le verset 22 à 24. Donc là, ils sont en train de faire leur ministère à Philippe. Et au verset 22, la foule se souleva à cause de tout ce qu'il est en train d'annoncer, le message qu'il annonce. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, il s'agit de Paul et Silas, ordonnèrent qu'on les batte de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Donc, il venait, c'était avant d'aller à Corinthe. Il était à Philippe. Ensuite, il est allé, au verset 17, à Thessalonique. Là aussi, il a vécu des choses difficiles. Acte 17, verset 5 à 10. Acte 17, verset 5 à 10, il nous dit, « Mais les Juifs jaloux prirent à Thessalonique, prirent avec quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. » Alors ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Il vivait des choses difficiles avant de se rendre à Corinthe. C'est pour ça qu'il parle de son état de faiblesse. Son état de faiblesse, ça explique aussi pourquoi nous l'avons vu quand nous avons débuté, pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, Dieu, quand il lui a dit « Il faut que tu ailles dans cette ville, ne crains rien, il va sûrement arriver des choses, mais ne crains rien, parce que j'ai un peuple nombreux. Nous l'avons lu dans Actes des Apôtres, chapitre 18, mercredi passé. Ne crains rien, parce que j'ai un peuple nombreux que je veux sauver dans cette ville. Donc, il avait des craintes quand il s'est présenté à eux. Il l'avoue. Et il dit, j'ai vécu des épreuves, etc. Son état de faiblesse et de grand tremblement était aussi lié par rapport au message qu'il voyait qu'il a à livrer. La mission qu'il a est tellement importante qu'il ne faut pas que rien l'arrête. Il est venu à Corinthe aussi avec une parole de prédication basée sur des discours qui ne sont pas bien articulés. Ce n'est pas ça, comme je disais, qui était important pour lui. Il ne s'agit pas d'amener un discours bien fait, dit, quand je vais me tenir, les gens vont être éblouis par ce que je vais dire, la façon dont je vais le dire. Il dit, ce n'est pas ça qui m'a amené. Mon discours n'était pas basé sur des discours bien articulés de la sagesse humaine. Mon discours n'était pas là pour persuader à coup d'arguments philosophiques. Mais mon discours était là comme une démonstration de force et de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et ça a eu cette démonstration, c'est à travers quoi? Cette démonstration, c'était pas nécessairement à travers des miracles. Oui, à travers des miracles, mais c'était par rapport plus à la conversion. La conversion des gens. Les gens étaient convertis, les vies étaient transformées à l'écoute du message qu'il donnait sur la croix. Donc, les vies étaient transformées, les conversions étaient donc l'action du Saint-Esprit. Parce que c'est de lui que vient toute la puissance pour que les cœurs des gens soient touchés. Il ne faut pas imaginer un seul instant que on a beau faire les meilleures prédications, etc. Si le Saint-Esprit n'est pas derrière, c'est des mots creux, c'est des mots vides. Il faut que le Saint-Esprit vienne apporter la puissance derrière cette parole pour que les cœurs soient touchés, pour que des vies soient transformées. C'est pour ça qu'il le dit. Il dit, mais moi, je ne suis pas venu avec des discours persuasifs. Ma parole, ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi? Parce que si c'est une démonstration d'esprit et de puissance, alors votre foi ne va pas se baser juste sur des beaux discours. Mais votre foi va être basée sur la puissance de Dieu. Amen. Votre foi va être basée sur la puissance de Dieu. Donc, c'est de lui que vient toute la puissance pour changer et transformer les vies. Alors, si notre foi est basée sur des arguments, on va dire ça comme ça. Si notre foi est basée sur des arguments que quelqu'un peut donner, il vient, il parle de la résurrection, il donne des arguments, tu dis oui, ça tient debout, etc. Mais un autre peut venir le lendemain avec des arguments contraires. Et il est plus éloquent que le premier, lequel tu vas se situer. Ta foi est basée sur l'éloquence de la personne, sur les discours qui est dit. Mais le jour où quelqu'un d'autre vient faire un autre discours, tu vas changer. Donc ta foi n'est pas solide, ta foi n'est pas assise réellement sur le vrai message que tu dois écouter, qui est le message de salut en Jésus-Christ. Amen. Voilà donc ce qu'il veut nous dire. Alors à partir du verset 6, il nous dit « Cependant, c'est une sagesse, nous allons aller jusqu'au verset 10. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Je voudrais, avant de continuer avec ceci, ajouter ici, je me suis pris quelques notes, justement, comme dans le cas de Paul ici, nous devons savoir qu'un chrétien peut avoir peu d'instruction. Il peut avoir peu d'instruction. Donc, ne te base pas sur ton niveau d'instruction pour dire « je ne suis pas capable de toucher des vies et des personnes ». Ce n'est pas toi. Toi, tu te laisses aller comme un simple canal, comme un instrument entre les mains du Seigneur. Serviteur simplement fidèle, mais qui veut être efficace dans le champ du Seigneur, avec les dons, avec les talents, avec les moyens que Dieu met à sa disposition. Le peu que tu sais dire, tu es capable de l'utiliser fidèlement et Dieu va être derrière ça. D'un simple serviteur que des gens négligent, tu peux toucher des cœurs, tu peux changer des vies par le moyen de la parole que tu dis. Alors, un service que nous accomplissons, nous devons l'accomplir toujours et nous assurer que nous l'accomplissons sous la puissance de Dieu. Parce que c'est ça qui va avoir des retombées. Sinon, le reste, vraiment, c'est du cinéma, etc. Donc, voilà ce qui peut toucher les âmes. Voilà ce qui peut attacher les âmes à Dieu. Voilà ce qui peut les lier à Dieu, faisant oublier le canal par lequel Dieu a passé. Mais aujourd'hui, malheureusement, et c'est pour ça que je l'ai noté, aujourd'hui, malheureusement, nous voulons trop mettre de l'avant, nous mettre de l'avant. As-tu vu comment je prêche? As-tu vu comment je fais? As-tu vu comment j'ai... Nous mettons de l'avant beaucoup plus le canal plutôt que le message. Alors, nous ne devons pas minimiser. Un jour, une dame qui viendra ici, je pense à une dame qui est à Ottawa, qui n'a pas étudié, je vous en ai déjà parlé, qui gardait les vaches, qui ne savait même pas lire, qui ne savait pas, mais aujourd'hui, elle a presque fait le tour du monde à cause de son témoignage. Ce qu'elle sait, elle est reçue par des chefs d'État, elle est à Ottawa, je l'ai vue encore dernièrement quand j'étais à Ottawa, j'espère qu'un jour, elle viendra nous rendre visite. C'est une simple femme. Un simple canal que Dieu a voulu utiliser pour sa gloire, mais qui a touché des vies. Je vous dis le nombre de personnes qui se sont converties à l'écoute de son témoignage. Comment elle était morte, elle était partie pendant 3 jours et Dieu lui a montré des choses incroyables. Et ce que Dieu lui a montré, elle est revenue pour le dire auprès des gens. Des gens se sont convertis. Les gens ont abandonné l'alcool. Des gens ont abandonné les histoires de sexe. En tout cas, elle a eu un impact invraisemblable. Invraisemblable. Alors qu'elle n'était pas instruite, elle n'avait rien du tout. Elle se présente comme étant, elle était une gardienne de vaches. Quand Dieu veut élever quelqu'un, Dieu l'élève pour sa gloire et pas pour la gloire d'une personne. Amen. Donc ce que nous devons faire, nous, quand nous faisons le travail que Dieu nous demande, c'est de le faire avec une bonne conscience. Une bonne conscience. C'est pour ça que j'avais amené mon carnet de chants là-bas. Vous connaissez ce chant, on ne va pas le chanter. Ça me faisait penser à ça. Combattons le bon combat en gardant bien notre foi. Et une bonne conscience que quelques-uns ont perdu. Connaissez-vous ce chant? Non, mais c'est ça les paroles, je les ai retenues. Combattons le bon combat en gardant bien notre foi. Et une bonne conscience que quelques-uns ont perdu. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans le livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père, dit Jésus, alléluia, et je confesserai. Amen. Une bonne conscience. Fais quelque chose dans la simplicité, mais fais-le avec une bonne conscience. Et c'est ça qui permet à la puissance de Dieu de se manifester dans un ministère, comme ça s'est manifesté dans le ministère de Paul. Amen. Nous sommes arrivés au verset 6. Il veut nous montrer quelles sont les caractéristiques de cette sagesse selon Dieu. C'est pour ça qu'il commence par « cependant ». Parce que tout ce qui vient avant, et même dans le chapitre 1er, il a comme un peu descendu la sagesse humaine. Ça ne vaut rien, ça ne vaut rien. Non, ce n'est pas que la sagesse humaine ne vaut rien. Et il y a des choses qu'elle peut faire, mais il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Il dit « cependant, il existe une autre sagesse ». Cependant, la sagesse dont je vais vous parler, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, parmi les convertis, parmi les craignants Dieu, parmi les gens qui, les enfants de Dieu, ceux qui se sont donnés entièrement au Seigneur. Donc, j'ai minimisé peut-être la sagesse humaine, mais il y a une autre, il en existe une autre, qui est prêchée parmi les parfaits et qui n'est pas destinée à l'homme charnel. C'est ça. Elle est destinée aux hommes parfaits, qui sont des hommes spirituels. Ça, c'est la première caractéristique. La sagesse spirituelle, la sagesse selon Dieu, c'est une sagesse qui est destinée aux hommes parfaits, ce qu'on appelle les hommes parfaits, les enfants de Dieu, ceux qui sont réellement convertis. Cette sagesse, contrairement à celle des gens de Corinthe, n'est pas de ce siècle, il est dit. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Ce siècle ici, où on élève tout ce qui est intelligence, tout ce qui est savoir-faire, etc., n'est pas de ce siècle, le siècle présent, qui est déchu avec des choses qui n'honorent pas Dieu. Comparé au siècle à venir, qui est le siècle où, quand le Messie reviendra, quand le Christ reviendra, il va faire son règne. Le règne de Dieu, pendant ce temps, sera différent. Et c'est là où va régner la sagesse qui n'est pas de ce siècle, comme la sagesse d'un monde déchu. Nous, ici, aujourd'hui, on se base sur les choses que les savants donnent, les grands philosophes, les grands penseurs du siècle. Voilà ce qui élève les gens. Mais dans le siècle à venir, c'est la sagesse selon Dieu qui va diriger toute chose. On dit que ce n'est pas la sagesse de ce siècle, ni elle n'est pas non plus celle des chefs de ce siècle. les autorités actuelles, ceux qui mènent le monde aujourd'hui, les gouvernants, ce n'est pas la même sagesse. S'ils avaient la même sagesse, il y a bien des choses qui changeraient. Il y a bien des lois qui ne seraient pas votées. Amen. Il y a des modes de gestion qui ne seraient pas les modes de gestion que l'on voit aujourd'hui. Mais il n'est pas la sagesse des chefs de ce siècle, de tous ceux qui croient par leur influence détourner les gens de Dieu. Effectivement, parce que les gens font aujourd'hui tout ce que les gouvernants, le monde, les scientifiques essaient d'inculquer aux gens, c'est de nous faire croire que Dieu n'existe pas, Dieu n'a pas de pouvoir, etc., etc. C'est ce qu'on nous pousse à faire de plus en plus aujourd'hui, les gouvernements, les savants, les grandes théories qui sortent, etc. La théorie de l'évolution, la théorie je ne sais pas quoi, etc. Ils font des recherches, ils arrivent à prouver que le monde n'existe pas depuis autant d'années, etc. Il y a tellement de choses que l'on veut nous prouver pour nous éloigner de Dieu. La sagesse dont Paul parle n'est pas la sagesse des chefs de ce siècle. Et eux, ils vont être réduits à l'impuissance. Ça veut dire que dans pas longtemps, leur puissance va se terminer. Dans pas longtemps, ça va finir, etc. Ils sont en perte de puissance et ils ne tiendront plus longtemps. Cette sagesse a aussi une autre caractéristique, il le dit. Elle est mystérieuse et elle est cachée. Elle est mystérieuse et elle est cachée à l'intelligence humaine. La sagesse de Dieu, tu ne peux pas la découvrir avec juste l'intelligence humaine. Tu ne peux pas la découvrir si tu chemines hors de Christ. Il n'y a que ceux qui sont en Christ. Quand on est en Christ, il nous donne son esprit et c'est par son esprit que nous pouvons comprendre la sagesse d'en haut. La sagesse présente, elle est mystérieuse, elle est cachée, on ne peut pas la connaître si on ne reçoit pas la révélation de Dieu, si on n'a pas l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous permet justement, au travers de la parole de Dieu, de découvrir quel est le vrai message de Dieu. Les gens du monde vont lire ici, ils vont rien comprendre, pas grand-chose. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de comprendre le contenu, ce qu'il y a pour nous. Donc, elle est mystérieuse, elle est cachée, et Dieu, elle vient de Dieu. Donc, c'est Dieu qui avait prédestiné pour notre gloire. Donc, elle vient de Dieu. Elle est mystérieuse, elle est cachée, elle vient de Dieu. Et Dieu l'a fait avant les siècles. Il y a des choses que Dieu a prévues avant les siècles. Il avait prédestiné notre gloire. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le mystère là-dedans, c'est que nous l'avons vu quand nous avons fait l'étude de Romains. Romains chapitre 8. Quand on voit que Dieu avait prévu depuis l'éternité que le salut n'allait pas seulement être pour les Juifs. Le mystère, c'est celui-là. Le mystère, c'est que le salut est pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, tous ceux qui se donnent à Jésus-Christ. Donc, les Juifs et les gentils. Même si à l'époque, ce n'était pas encore clair dans l'esprit des gens, mais Dieu savait, il avait prédestiné des personnes depuis l'éternité pour qu'ils puissent être sauvés, pour qu'ils puissent faire partie du nouveau peuple de Dieu. Et c'est à ce peuple-là que Dieu a réservé cette sagesse, tous ceux qui croiront dans le nom de Jésus-Christ. Dieu l'avait établi avant les siècles, Dieu l'avait établi avant que le monde n'existe. Et dans la pensée de Dieu, justement, il a pensé à nous, justement, Dieu a pensé à nous avant la fondation du monde, c'est extraordinaire. Hein? Nos noms étaient déjà connus avant que le monde ne soit fondé. Dieu avait déjà un plan. Il savait que nous allions faire partie de cette nouvelle famille d'enfants de Dieu qu'il a établie justement et sur laquelle il compte pour que sa réputation aille loin. Je le disais tout à l'heure avec raison. Dieu compte sur nous. Lui, il est venu, Jésus est venu, il a fait ce qu'il est venu faire. Il nous a donné le message, il nous a laissé des consignes. Voici ce que j'attends que vous fassiez, que vous continuez à faire pendant que je suis parti en attendant mon retour. Donc Dieu compte sur nous pour que son nom soit connu, pour que sa gloire éclate sur la face du monde. Voilà pourquoi il a choisi des personnes depuis toujours et il leur a communiqué cette sagesse pour qu'au moyen de cette sagesse, nous puissions connaître la révélation de la parole de Dieu et que nous puissions pouvoir la mettre en pratique et que la gloire de Dieu puisse s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Notez ici ce qu'il dit. Après avoir donné ses caractéristiques, donc c'est une sagesse mystérieuse, elle est cachée, elle vient de Dieu, et elle a été conçue avant les siècles et nous avait prédestinés pour notre gloire. Il dit, c'est une sagesse qu'aucun des chefs de siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Et effectivement, quand vous réfléchissez, c'est vrai. Amen. S'il savait qu'en crucifiant Jésus-Christ, il contribuait à ce que le plan de Dieu se réalise, le plan de salut de Dieu se réalise. Eux, ils croyaient bien faire, ce qui n'était pas sage. Ils avaient la sagesse du monde, mais ils n'avaient pas la sagesse de Dieu pour comprendre pourquoi Dieu permet, laisse faire que son fils aille jusqu'à la croix. Eux, ils pensaient que oh, nous l'avons eu, on l'a crucifié. Ils n'étaient pas sages, ils n'avaient pas la sagesse de Dieu. Mais s'ils avaient la sagesse de Dieu, ils auraient empêché. C'est eux qui auraient empêché que Christ soit crucifié. Parce qu'en crucifiant, il a cloué à la croix l'ennemi, etc. Il en a fait son marchepied. Il a cloué à la croix tout ce qui nous condamnait, etc. Il nous a libérés. Il a rendu l'humanité libre. Ils n'avaient pas la sagesse. S'ils l'avaient, ils n'auraient pas crucifié Jésus-Christ. Donc c'est une sagesse qu'il confirme encore une fois qu'elle est réservée aux élus. Elle est réservée aux élus, pas aux chefs de ce siècle qui sont menés par leur intelligence, par leur calcul mesquin, par leur petite vision qui ne voient pas au-delà des choses. Mais ceux qui marchent avec la sagesse de Dieu, le Saint-Esprit leur révèle des choses qui ne sont même pas encore arrivées. Amen. Merci Seigneur. Donc sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car il l'aurait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Donc cette sagesse contient des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Ça, il fait citer Ésaïe 64, verset 3. Et donc ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce qui est révélé par la sagesse de Dieu, c'est des choses qui ne peuvent pas venir du cœur de l'homme si l'Esprit de Dieu ne nous les révèle pas. Amen. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ceux qui se sont abandonnés à lui, ceux qui se donnent à lui, ceux qui aiment Dieu. Ah, il dit au verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Si les sages de ce monde, les chefs de ce siècle, avaient connu cette sagesse, ils n'auraient pas crucifié Jésus-Christ. Et rappelez-vous des dernières paroles de Jésus à la croix, avant de mourir, il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas la révélation, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas dit, pardonne-leur parce qu'ils ont péché. Oui, ils avaient péché en condamnant, rien qu'en condamnant quelqu'un qui était innocent. Ils avaient péché, il dit non. Oui, pardonne-leur aussi pour ça, mais pardonne-leur surtout parce qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas l'éclairage, ils n'ont pas la révélation. C'est des gens qui sont menés par la sagesse du monde, par leur propre intelligence. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, ce que Dieu a fait, il nous l'a révélé par l'Esprit, évidemment. Dieu nous a révélé toutes ces choses par l'Esprit. Mais ce qu'il veut dire ici, Paul, c'est que ce que Dieu a fait, aucun autre Dieu n'a été capable de le faire. Aucun autre de tous ces petits dieux, aucun autre n'a été capable de le faire. Ce que Dieu a fait ne peut être compris par nos propres voies. Ce que Dieu a fait ne peut être compris par nos propres voies. Donc il veut encore montrer l'importance de la révélation. L'importance de la révélation qui nous donne cette sagesse. La seule façon de connaître donc les profondeurs de Dieu sur le salut. Ce que Dieu a voulu faire à travers le salut, à travers le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Ce que Dieu a préparé et ce que Dieu a accompli par le Fils. La seule façon de le faire, c'est par la révélation de ce mystère et c'est par le Saint-Esprit. Et c'est ici qu'on voit encore que les profondeurs de Dieu sont à la portée de ceux qui exercent seulement leur foi en Christ. Pour aller dans les profondeurs de Dieu, c'est réservé à ceux qui exercent leur foi en Jésus-Christ. Seulement cela, seulement cela. Donc, il fait beaucoup de citations de l'Ancien Testament. Ça, c'est la particularité de Paul. Il dit que je m'adresse à des personnes qui connaissaient les textes des écrits des anciens temps, etc. Il se réfère beaucoup à ça. On peut lire Ésaïe. On va voir que ça vient de là. Ésaïe, chapitre 55, d'abord. Ésaïe 55, le verset 8. Il dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Donc, on ne peut pas se baser juste sur nos pensées, sur nos propres voix pour croire, comprendre ce que Dieu veut faire. Il va falloir que nous ayons l'aide du Saint-Esprit pour nous éclairer en tout cela. L'autre texte, c'est dans Ésaïe 64. C'est ce qu'il cite justement, Ésaïe 64, le verset 3. « Jamais on n'a appris ni entendu dire et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui se confient en lui. » Amen. Cette révélation n'est réservée qu'à ceux qui se confient en lui. Et c'est la seule façon de voir ce que l'œil n'a jamais vu, d'entendre ce que oreilles n'ont jamais entendu. Amen. La révélation de Dieu est capitale pour les enfants de Dieu. Et c'est le message qu'il est en train de passer aux Corinthiens. Je rappelle que les Corinthiens étaient une église qui vivait dans une ville où l'intellectualisme, le raisonnement, les philosophies, etc. de cette époque, c'était le mode de vie. Alors il dit, mais vous n'irez loin, vous n'irez pas loin avec ça, vous n'irez pas nulle part avec ce genre de philosophie. Les profondeurs de Dieu, vous ne pouvez pas y avoir accès qu'en exerçant la foi en Christ. Et là, on voit, on a parlé de Trinité dernièrement, j'ai vu encore un aspect de la Trinité ici. La révélation de ce mystère se fait par le Saint-Esprit. Il nous révèle quoi ? Les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de Dieu ont été révélées à nous. Dieu a préparé des choses que le Fils est venu exécuter et que le Saint-Esprit est venu nous enseigner, nous révéler et nous ouvrir les yeux à ces réalités. On voit aussi comment la Trinité apparaît là-dessus. L'Esprit donc sonne tout et seul lui peut nous révéler les choses. Donc Dieu se révèle en inspirant des personnes choisies. Dieu se révèle en inspirant des personnes choisies et le Saint-Esprit vient éclairer ceux qui lisent les choses. Donc Paul nous dit ceci à partir du verset 11. Il dit « Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ?» De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Moi, je ne peux pas connaître vos pensées. Je peux deviner des choses, mais je ne suis pas sûr de connaître vos pensées. C'est la même façon. Personne d'autre, donc, ne peut connaître les pensées de Dieu sinon par l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'il veut dire. Il dit, mais qui parmi les hommes connaît les choses de l'homme ? Qui connaît ce que tu penses, ce que tu projettes ? Qui connaît ? Il n'y a que toi qui connais ce que tu penses. Moi, je ne peux pas. Je peux deviner des choses, je peux me tromper, mais je peux deviner. Mais pour les connaître, c'est la personne qui les connaît. Et donc, autant que personne ne peut connaître les pensées d'un autre, autant ça prend l'Esprit de Dieu pour connaître les choses de Dieu. Ça prend l'Esprit de Dieu pour connaître les choses de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit « nous » à partir du verset 12. Or, nous. Nous, c'est qui ici ? Nous, c'est lui et les apôtres et les personnes que Dieu a choisies. Ce que Dieu a choisi pour les inspirer afin qu'ils puissent nous écrire ces livres. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde que Dieu a choisi pour l'inspirer. Il a choisi les personnes qui ont écrit les 66 livres, qui est le message que Dieu voulait laisser à son peuple. Dieu a choisi des personnes qu'il a inspirées pour écrire la Bible. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, ils ont été inspirés par l'esprit de Dieu pour qu'à leur tour, ils écrivent ces choses. Et c'est ce qu'il dit à la suite. Et nous en parlons. Nous avons été inspirés parce que Dieu veut révéler à des personnes. Il a choisi des personnes à qui il a révélé ces choses. Et il les a inspirés pour écrire la Bible, pour que cette Bible nous soit transmise. Et nous en parlons. Il en parle parce qu'il nous a transmis ces messages qu'ils ont reçus par inspiration. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec les discours qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. La Bible, c'est un langage spirituel, pour des choses spirituelles. Amen. Si tu veux avoir la révélation, c'est à travers la Bible. C'est là que Dieu va te parler des choses spirituelles. Tu ne peux pas t'asseoir dans ta maison, commencer à étudier les livres des philosophes et croire que tu vas avoir la révélation de Dieu. Non. Si tu veux avoir la révélation des choses de Dieu, c'est à travers la Bible. Et Dieu a choisi des personnes, nous, dont il parle au verset 12. Dieu nous a choisis. Et nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui vient de Dieu pour que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et comme nous les connaissons maintenant au verset 13, nous en parlons avec des discours comme à ce moment-là, avec des discours savants, etc. Mais avec un langage spirituel parce que ce dont nous parlons, c'est des choses spirituelles. Voilà pourquoi je pense que c'est important de revenir à ce passage de l'Apocalypse 22. À la fin de l'Apocalypse 22, le verset 19, il dit « Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera aussi sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Dans mon commentaire ici, on dit « Ce genre d'avertissement n'est pas nouveau. C'est des paroles qui ont été inspirées. Les gens qui prennent le risque d'aller les modifier, les paroles qui inspirées de Dieu, parce qu'il les a envoyées, ces personnes, pour que ces gens les écrivent, pour notre connaissance, pour notre édification, pour que Dieu puisse, à travers ces paroles, nous ouvrir les yeux spirituels aux réalités spirituelles, gare à ceux qui viennent ajouter des choses en plus ici. Il n'y a pas d'autre inspiration en dehors de la Bible. Depuis que la Bible a été écrite, le canon a été tracé. La Bible, c'est le livre inspiré par Dieu. Il ne faut pas croire que demain, il va se lever quelqu'un d'autre qui va dire « Dieu m'a inspiré, il y a encore telle chose qu'il faut ajouter. » Non. Celui qui se permet de faire ces choses comme ça, on dit ici, s'est mis en garde contre la tentation de modifier le texte biblique, renvoie à la clôture du canon, le canon qui est l'ensemble de 66 livres, etc., quoique porte atteinte à la vérité en essayant de la détourner, de l'atténuer, de la modifier ou d'en proposer une mauvaise interprétation, il encourt des châtiments décrits dans ces versets. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, c'est ça exactement, ça part de là. Amen. Donc, c'est un bel avertissement ici pour dire que la parole de Dieu, elle est ce que Dieu a voulu inspirer pour notre édification. Ne faisons pas d'ajout, ne faisons pas de soustraction là-dedans. Nous courons des risques, etc. Et il n'y a aucune autre place où nous pouvons attendre une autre révélation. Il n'y aura pas d'autre inspiration qui n'ait pas été faite. Je pense que Dieu a complété en nous donnant le message. Tout ce qu'il fallait que nous sachions est là-dedans. Alors, n'allons pas chercher ailleurs, nous avons tout ce qu'il faut là-dedans. Amen. Et il dit, nous en parlons, c'est-à-dire nous partageons ces vérités avec ceux que l'Esprit éclaire, justement, ceux qui veulent être enseignés, ceux à qui Dieu illumine. Amen. C'est qui ces personnes? C'est ceux dont il parlait au verset 6, les parfaits, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Ce sont les personnes à qui nous écrivons. Nous en parlons pour ces personnes afin que ce qu'enseigne l'Esprit, donc on le fait avec un langage spirituel pour des choses spirituelles. Alors, il termine en disant, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Personne. Or, nous avons la pensée de Christ, nous avons la pensée de Christ, parce qu'elle nous a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Je veux dire simplement que l'homme naturel n'a pas accès à ce genre de connaissances que nous avons. L'homme naturel, c'est-à-dire celui qui n'est pas converti, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, peu importe son intelligence, peu importe ses talents, peu importe son instruction, il n'a pas accès aux choses de l'Esprit, parce que ces choses de l'Esprit, on ne peut les comprendre que spirituellement, ces vérités. Ce n'est pas par l'intelligence, mais c'est seulement par l'Esprit de Dieu. Amen. Et l'homme spirituel, dit-il par contre, lui, il juge de tout, parce qu'il peut aussi avoir la sagesse humaine. Ce n'est pas parce qu'on est spirituel qu'on est flayé, donc on ne sait pas tout ce qui se passe sur terre. On peut être instruit, on peut avoir la sagesse humaine, la connaissance des choses d'ici-bas, mais en plus, on a cette connaissance des choses d'en haut. Il juge de tout parce qu'il est revêtu de l'Esprit de Dieu et ça lui permet d'émettre un avis. Il peut émettre un avis sur les choses de ce monde. Il peut émettre un avis approprié. Ce n'est pas dit que les enfants de Dieu, ils sont en l'air. Souvent, c'est comme ça, on dit, mais non, un enfant de Dieu, il a les pieds sur terre. Un enfant de Dieu a les pieds sur terre, un enfant de Dieu a l'esprit ouvert pour voir et pouvoir discerner à travers ce qui se passe dans le monde, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, etc. Mais en plus, il peut émettre un avis sur des choses physiques, ce qui se passe autour de nous, etc., mais sur les choses spirituelles. La différence est celle-là. L'intellectuel qui ne connaît pas le Seigneur, lui, il ne peut émettre que des choses sur des choses de ce monde, des choses physiques. Mais l'enfant de Dieu, celui qui est parfait, dont il parle au verset 6, peut émettre un avis, juger de tout cela, émettre un avis sur les choses spirituelles. Par contre, il dit qu'il n'est jugé par personne. Oui, c'est vrai qu'il n'est jugé par personne d'autre que Dieu. Il n'est jugé par personne d'autre que Dieu. Amen. Les non-croyants, même s'ils peuvent déceler des faiblesses dans la vie d'un enfant de Dieu, ne peuvent pas nous juger parce qu'ils ne savent pas les motivations que nous avons dans ce que nous faisons. Nous sommes mus, nous sommes poussés par l'Esprit de Dieu à faire certaines choses que l'homme qui ne connaît pas ces choses ne peut pas juger parce qu'il ne connaît pas ces choses. Il ne peut pas nous juger là-dessus parce qu'il ne connaît pas ces choses. Donc, lui, il n'est jugé par personne. Il peut avoir des fautes, il peut avoir des erreurs, oui. Un enfant de Dieu n'est pas exempt de ça. Hein. Même les apôtres, on l'a vu quand on étudiait, je ne sais plus, dans une prédication, je crois que j'ai apporté, que c'était dans quoi que je... En tout cas, peu importe. Mais les enfants de Dieu... peuvent aussi avoir des erreurs, peuvent commettre des fautes. Vous savez, nous sommes encore sur terre, etc. Les gens du monde le voient, ils peuvent émettre ce qu'on appelle jugement, hein. Ils peuvent émettre un avis là-dessus. Oui, c'est vrai, on ne leur renie pas ça, ces choses-là. Mais ils ne peuvent pas émettre des jugements sur nous, sur le comportement que nous avons poussé par l'Esprit de Dieu. Dans ce qui concerne les choses spirituelles, ils ne peuvent vraiment pas comprendre ce que Dieu est en train de faire dans la vie d'un homme. Et c'est pour ça qu'ils commettent l'erreur parfois de dire, un enfant de Dieu décide de faire quelque chose, un geste, comme cet homme, la caterpillar, là, qui à un moment donné a décidé, lui, de donner 90% de ses revenus. Caterpillar, quand il a commencé la construction de sa machine, il a dit, moi, avec ce que je gagne, 10% seulement de ce que je gagne, j'ai assez jusqu'à la fin de mes jours et pour mes enfants et tout le reste. Et à quoi ça sert de garder? Il a dit, moi, plutôt que de donner 10% à Dieu, j'y donne 90%. Pour les gens du monde, c'est folie, tout simplement, c'est la folie. Ils ne peuvent pas juger de ces choses, ils ne comprennent pas parce que tu le fais parce que tu as compris quelque chose qu'eux n'ont pas encore compris. Amen. Ils ne peuvent pas comprendre la nature spirituelle des enfants de Dieu, ils ne peuvent pas comprendre non plus et émettre un avis sur la pensée du Seigneur. Les choses de Dieu sont mystères pour eux, sont cachées pour eux, jusqu'à temps qu'ils puissent se donner eux-mêmes au Seigneur, que l'Esprit de Dieu vienne leur révéler ses vérités. Amen. Donc, sans l'Esprit Saint, tout est spéculation. Tout ce que les gens font n'est que spéculation, ce ne sont que des fausses vérités, etc. Ce sont des choses qui ne sont qu'une tragédie pour l'humanité, en réalité. Et en parlant de ça, on pense à quoi? On pense à la religion, les religions du monde. Mais des religions qui ne sont pas fondées sur Christ, c'est des spéculations, c'est des fausses vérités, simplement, tout simplement, qui mènent des gens vers des tragédies, vers la ruine. Ça peut être bien conçu, ça peut être bien structuré comme doctrine, etc. Ça peut être bien fait. Tu écoutes ça, tu dis, ouais, ça a de l'allure, ça a de l'allure. Mais c'est rien du tout, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là-dedans. Amen. Les religions, donc, fonder sa foi sur une religion, c'est tu perds ton temps. Mais là, notre foi doit être fondée sur Christ, la révélation que nous avons eue par l'Esprit de Dieu. Amen. Et il dit, or nous, nous avons la pensée de Dieu. Donc l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée de Dieu pour l'instruire, sinon ceux qui ont la pensée de Christ. Nous, nous avons la pensée de Dieu parce qu'elle nous a été révélée, parce qu'elle nous éclaire chaque jour, etc. Et donc, toute la communication que nous devons faire même autour de nous, du message de l'Évangile, nous devons le faire par la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est la seule chose qui est le gage du succès. C'est la seule chose. C'est la seule chose. Les religions peuvent entraîner beaucoup de gens, mais à la fin des temps, quand Christ reviendra, les gens vont se rendre compte, mais ça risque d'être trop tard à ce moment-là. Ça risque d'être trop tard. Par contre, si ce que nous devons communiquer, nous devons le communiquer par l'Esprit de Dieu. C'est ça qui va avoir un impact, c'est ça qui va toucher des vies, c'est ça qui va transformer des vies. Ce n'est pas juste par la sagesse humaine comme les gens de Corinthe. Donc, une belle leçon que Paul vient de donner encore aux gens de Corinthe, parce qu'ils veulent les ramener sur le droit chemin, le chemin de la parole qu'il leur avait enseignée. Amen.